c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Il y en a plus.
Oh, on n'a plus de café, là.
Attends, on fait après l'émission.
Mon papier n'est pas imprimé, là.
Les jours.
Oh, purée, ce gaz qui marche, moi. Mais c'est pas
vrai. Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois. Zou.
Allez, les gars.
Bonjour à toutes et à tous.
On y va.
Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vivement l'arrosoir qu'on se douche. Et oui, deux Elsa ce matin dans le studio de Radio Sainte-Afrique et Chloé, notre chère petite coccinelle derrière son bocal de verre. Au sommaire de cette édition, une revue de presse vitaminée et surprenante, suivie d'une chemise à rayures tout droit venue de la Drôme provençale, où vous aurez le plaisir de rencontrer deux personnages atypiques. Et enfin, nous découvrirons la littérature indienne. Sylvie Boulard nous régalera de sa parenthèse littéraire épicée. Pour commencer cette émission tout en douceur et en poésie, voici un trio à cordes et à voix, trois jeunes femmes de l'Hérault, Trio Zéphyr. Trio Zéphyr, et pour ceux qui se demandent quelle langue elle chante, et ben c'est un langage imaginaire. Et toi Elsa, quelles sont les nouvelles du jour?
Chou.
Falaise.
Bah pourquoi chou?
Bah parce que feuille.
Ah!
Eh bien Zou, on commence comme à notre habitude par un petit tour d'horizon des quotidiens de ce jour. Alors Angela et Nicolas émoustillent Le Figaro, Le Monde et Luma. Pour Le Figaro, Sarkozy-Merkel, le pacte anti-Hollande. Dans un entretien diffusé sur France 2 et la ZDF, la chancelière allemande a apporté un soutien total au président français. En allemand, ça donne ça.
Ich liebe dich und du liebst mich. Wir sind zusammen für das Leben.
Nous sommes ensemble pour l'amour. Et oui, ils s'aiment, ces deux-là, à moins que, le monde s'interroge. Pourquoi Madame Merkel fait campagne pour Monsieur Sarkozy ? Et le monde démet une hypothèse. Alors que la France subit un double décrochage économique et politique, l'Allemagne a plus que jamais besoin d'un appui français en Europe. C'est aussi ce que dit Luma dans une forme un peu moins diplomatique. Sarkozy, candidat de la chancelière, Angela Merkel est venue soutenir le président français dont l'impopularité ne cesse de croître. La France s'aligne sur la fiscalité allemande des entreprises. Ils exigent de nouveaux sacrifices au peuple grec, à l'image de l'austérité qu'ils veulent imposer à l'Europe. À noter qu'Angela Merkel a dit qu'elle ne tenait pas à rencontrer François Hollande. En allemand toujours, ça donne ça. Je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas. Je traduis. Enfin, Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de Gauche et l'invité spécial de Libération, avec ces mots, il faut frapper, frapper, frapper. Courrier international nous propose un article édifiant de The Guardian sur la répression en milieu scolaire au Texas. Dans cet état, des policiers patrouillent dans les écoles et des milliers d'élèves comparaissent tous les ans devant les tribunaux pour des infractions diverses. Alors par exemple, pour avoir proféré des insultes ou s'être mal comporté dans le bus de ramassage scolaire ou s'être battu dans la cour. Certains élèves sont arrêtés parce qu'ils fument ou parce qu'ils ne sont pas habillés convenablement ou encore parce qu'ils sont arrivés en retard. En 2010, la police texane a distribué 300 000 contraventions à des enfants âgés parfois de seulement 6 ans pour des infractions mineures commises à l'école. C'est fou, hein ? Les sanctions vont de la simple amende, qui peut atteindre tout de même 500 $, à des peines de prison. Tout ça avec une mention au casier judiciaire, susceptible d'empêcher par la suite un jeune d'aller à l'université ou de trouver un emploi. Parce que quand tu fais une demande de bourse aux États-Unis, t'as une question, est-ce que vous avez déjà été en prison ou est-ce que vous avez commis un délit et...
Si oui.
Et voilà, donc il y a plein de jeunes qui, après ça, ne peuvent pas faire suivre des études supérieures. Il s'agit là d'une criminalisation de comportements puérils. La directrice adjointe d'une association de défense des droits explique que cette situation est liée à la dramatisation de la délinquance juvénile au début des années 90. Cette politique a prospéré sur le terrain de la tolérance zéro face à la criminalité. Et puis en 99, il y a eu le massacre de Columbine. Deux élèves avaient tué 12 autres jeunes. Les parents ont alors réclamé que l'on protège leurs enfants. Et mettre des policiers dans les écoles est apparu comme une solution, même si la majorité des établissements n'étaient pas confrontés à de graves problèmes de violence. Les policiers qui arpentent les couloirs des écoles sont confrontés donc le plus souvent à des petits délits mineurs, voilà. Mais la réponse qu'ils donnent à ces petits délits est disproportionnée. D'après les registres du département de police scolaire d'Austin, les policiers ont eu recours à la force plus de 400 fois entre 2003 et 2008. Ainsi, il est arrivé que des batailles de nourriture à la cantine soient interrompues à coups de gaz lacrymogène et que des élèves insolents se retrouvent avec une arme pointée sur eux.
Quand même. Hein.
Ah ouais. Les exemples de violences commises par la police au sein des établissements scolaires sont pléthores. Enfin, autre conséquence, la présence des policiers fait que les professeurs se reposent sur eux et ne sont plus responsables du tout de la discipline. Si un jeune est un petit peu indiscipliné, on appelle les flics. Ainsi, ils n'ont plus du tout de compte à rendre aux parents. Une drôle de façon de traiter les enfants, mais faut-il s'en étonner quand on sait que les États-Unis sont le seul pays développé à condamner des enfants de 13 ans à la réclusion à perpétuité. On change de registre avec Cosette, qui consacre dans son dernier numéro un article sur les hôpitaux. Alors non, il ne s'agit pas des problèmes d'urgence ou de manque de lits ou de la tarification à l'activité, mais de la luxure en salle de garde. La fesse cachée de l'hôpital. C'est le titre de l'article agrémenté de photos de fresques pornographiques qui ornent ces salles de garde de certains hôpitaux parisiens et de province. La salle de garde, c'est la cantine des internes. Alors Cosette nous en décrit par le menu le rituel. Au niveau du vocabulaire, d'abord, on attribue des noms spécifiques selon la catégorie des personnes. Les fossiles, par exemple, ce sont les médecins qui ont terminé leur internat. Les invités, on les appelle des parasites. Il y a un maître de cérémonie qui règne sur cette salle de garde, homme ou femme, appelé l'économe. Il est assisté par des adjoints, l'économinette pour une femme ou l'économinou pour un homme. On se dit bonjour en se tapant sur l'épaule, on se tutoie et il est interdit de parler de médecine. Alors l'ambiance de la salle de garde s'apparente à celle d'une joyeuse foire. On y chante des chansons paillardes, on se montre son cul ou ses seins. Et si on viole une des règles, on a un gage, genre mimer un acte sexuel ou un orgasme, ou rouler une pelle au voisin. Et tout ça donc entouré de ces fresques lubriques qui sont des œuvres d'internes inspirées ou de véritables artistes. Alors pour vous remettre dans l'ambiance, je vous ai choisi une chanson paillarde de salle de garde, La grosse bite à du dul, oreille juvénile et prude s'abstenir.
Ils étaient amoureux, ils s'aimaient tous les deux, ils étaient heureux. Chaque soir, chaque matin, ils allaient au turbin, le cœur plein d'entrain.
À l'atelier, ses copines lui disaient:
pourquoi tu l'aimes tant, ton Dudule? Il n'est pas beau, il est mal fait.
Mais elle gentiment répondait:
vous en faites pas, les amis. Ce que j'aime en lui, c'est la grosse bite à Dudu. Je la prends, je la suce, elle m'encule. Ah les amis, vous dire ce que c'est bon quand il me la carre dans l'oignon. C'est pas une bite ordinaire quand il me la fout dans le derrière. Je me sens soudain toute remplie du cul jusqu'au nombril à Dudu.
Ça devait arriver, ils se sont mariés, ils ont convolé. D'abord sa cour marron, lui caresse à le menton, il flanque à l'aignon.
À l'atelier, ses copines lui disaient:
pourquoi tu ne tues pas ton Dudule? Il t'a battu, il t'a ciré.
Mais elle gentiment répondait:
vous en faites pas, les amis. Ce que j'aime en lui, c'est la grosse bite à Dudu.
Oh, encore.
Je la prends, je la suce, elle m'encule.
Oh, c'est dégueulasse.
Ah, les amis, vous dire ce que c'est bon quand il me la carre dans l'oignon. C'est pas une bite ordinaire quand il me la fout dans le derrière. Je me sens soudain toute remplie du cul jusqu'au nombril à Dudu.
J'assume mes responsabilités face à la diffusion de cette chanson. Si vous avez des réclamations à faire, au CSA ou...
Attention, il y a deux Elsa,
ou...
vous vous trompez pas.
Oui, oui. Bon, c'est mignon.
Oh, tout plein.
C'est rigolo. Bon alors, si les femmes ne sont pas en reste pour chanter ce genre de chansons ou se plier au rituel, il existe tout de même des réticences. Et c'est vrai que les femmes n'ont que deux possibilités, rentrer dans le jeu ou fuir l'endroit. Mais du fait de la féminisation de la profession, on note une évolution de la salle de garde. Les jeux deviennent plus fins, plus érotiques, moins pornographiques. Enfin, la salle de garde et ses rituels ont plusieurs fonctions. Ils contribuent à construire une communauté, à renforcer le sentiment d'appartenance à un corps d'élite. La salle de garde joue aussi un rôle social. Étudiants, les internes sont au bas de l'échelle dans la hiérarchie. Et dans la salle de garde, ils se retrouvent un peu à égalité avec leurs supérieurs, qu'ils tutoient et à qui ils peuvent demander de montrer leurs fesses. Voilà. Enfin, c'est aussi un sas de décompression pour les internes qui évoluent quand même dans un monde de maladies et de morts. Mais les salles de garde sont menacées et risquent de disparaître pour des raisons financières.
Mais comment ils vont décompresser alors?
Eh oui, hein. Et ben justement, il y a des gens qui se battent pour conserver ces salles de garde. Et l'idée de demander leur classement au patrimoine mondial de l'UNESCO fait son chemin. Oui, 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 c'est comme le,
comme le viaduc
de Millau et de Garabit. Ils vont demander leur classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Car figurez-vous que ces salles de garde sont une particularité française qui n'existe dans aucun autre pays. Et voilà.
Eh bien alors, Brassens.
Heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis né. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que honque. Elle n'eut de souhait impossible, elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous ont ainsi fait vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie, ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possèdent pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti disant « Oh les gens bienheureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'il semble aller lentement un grand vol, en forme de triangle, arrive, plane et passe. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol? Regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages. Ils vont tout leur désir, le vœu, par-dessus mont, et bois et mer et vent. Et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre sa chimère, plus d'un l'aile rompu et du sang plein les yeux. Mourra, ces pauvres gens ont aussi femme et mère, et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coqs, jeunes oies édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Regardez les vieux coqs, jeunes oies édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.
Les oiseaux de passage de Brassens, c'est justement, nous allons rencontrer deux oiseaux qui ont fait le choix de la liberté dans la chemise à rayures.
La chemise à rayures.
Info, invité, reportage.
Sur Radio Centrafrique.
Des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé.
De retour des rencontres de l'écologie au quotidien qui ont lieu chaque année depuis 9 ans dans la Drôme, je n'ai qu'une seule envie, chers auditeurs, c'est de partager avec vous quelques-unes de ces rencontres. Deux personnages, deux hommes qui ont changé de vie pour réaliser un projet plus en relation et en accord avec eux-mêmes et avec l'humain. Le premier est un lanceur d'alerte. Il s'appelle Pierre Raffeneau. Il a travaillé longtemps comme informaticien dans le secteur nucléaire. Puis, suite à une forte prise de conscience, il a décidé de tout plaquer. Et il a peu à peu décidé de mettre ses connaissances au service des autres en créant une revue trimestrielle appelée L'Oiseau de Passage.
L'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous sont ainsi faits vivre la même vie.
Donc après avoir travaillé 20 ans sur des projets pour des clients, je dirais, dans le domaine de l'énergie, donc essentiellement EDF, à la fois côté nucléaire ou côté des réglementations du marché de l'énergie. Et après 20 ans passés dans ce domaine-là où j'en avais un petit peu assez, j'ai souhaité changer de voie et essayer de faire des choses un peu plus en cohérence avec ce qui m'intéressait. Et c'est la raison qui m'a amené à créer cette revue. Disons que ça correspondait plus du tout à mes centres d'intérêt et à ce qui me paraissait important. Et même ça allait des fois carrément à l'encontre, je dirais, de mes idéaux, que ce soit en particulier sur relativement à l'écologie et aux problèmes environnementaux. Donc le nucléaire, c'est bien quelque chose qui est revenu assez largement d'actualité en 2011 avec la catastrophe de Fukushima. J'ai pas attendu cette catastrophe pour penser que ça aurait été une bonne chose de se lancer dans l'arrêt du nucléaire plus rapidement possible. Et pourtant, j'ai travaillé pendant 10 ans pour des projets dans ce domaine-là, des projets informatiques dans ce domaine-là, dans les années 90. Après, j'ai travaillé dans la dérégulation du marché de l'énergie, qui est également en elle-même, de mon point de vue, une chimère et une perte de temps absolue, très loin de ce qu'il faudrait faire et de l'urgence, je dirais, de l'urgence écologique. Donc à un moment donné, on peut s'interroger sur la légitimité de continuer à travailler 60 heures par semaine pour des projets dont la finalité est en elle-même contestable. Donc voilà, jusqu'au jour où j'en ai eu vraiment assez et j'ai fini par tout laisser tomber et essayer de me projeter sur autre chose.
Les fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coqs, genoux édifiants.
J'ai d'abord laissé tomber mon travail et c'est après seulement que j'ai réussi à me projeter sur autre chose. Donc c'est pas venu comme ça du jour au lendemain, ça a mis plusieurs mois de réflexion. Et puis après plusieurs mois de réflexion, l'idée a commencé à émerger. Après il y a eu de longs mois de recherche pour évaluer la faisabilité de ce projet. Donc effectivement c'est quelque chose qui a mis très longtemps à mûrir et qui n'est pas arrivé tout seul.
Voilà. Ils sont fiers et contents, ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne.
Alors, l'oiseau de passage, pour moi, ça évoque un personnage d'une chanson de Georges Brassens, en plus précisément une chanson basée sur un poème de Jean Richepin et chantée par Georges Brassens, qui s'appelle « Les oiseaux de passage ». Et ce personnage, c'est pour moi celui qui essaye de s'opposer au conformisme des bourgeois. Dans la chanson, c'est les bourgeois. L'idée pour moi, c'est plutôt le conformisme de l'ordre établi techno-scientifique. Donc ce personnage, c'est celui qui va essayer de voir un petit peu plus loin et de sortir un petit peu de cet ordre établi. Donc c'est de là qu'est née l'idée de ce nom de revue. Donc c'est un peu tout le monde. Et on est tous à la fois, je pense, à la fois oiseaux de passage et à la fois vieux coqs. Et l'idée de cette revue, c'est de pousser un petit peu la parole de l'oiseau de passage qui est en chacun de nous et d'essayer de repousser un peu ce vieux coq qui nous empêche de voir plus loin.
Ou bien d'en avoir deux, ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres.
C'est une revue qui cherche un petit peu à alerter sur les technologies au sens large, sur des grandes thématiques à caractère technologique, dans lesquelles on a tendance à mettre beaucoup d'espérance, et beaucoup trop d'espérance, pour résoudre tous les problèmes qu'on peut imaginer, que ce soit des problèmes énergétiques, des problèmes de déplacement, des problèmes de communication. Et la technologie de ce point de vue-là est assez inhibante et nous empêche justement d'essayer de construire une société où l'humain serait au centre, alors qu'aujourd'hui, justement, au contraire, je pense beaucoup trop les objets basés sur, en particulier, les technologies qui nous empêchent justement de remettre l'humain au centre.
Et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons.
Ce sera donc des thématiques comme les biocarburants, qui est le premier sujet que j'aborde dans le numéro 1 et qui va se poursuivre dans le numéro suivant. Et après, de nombreux autres thèmes d'intérêt général vont venir, comme l'énergie nucléaire, les OGM, les nanotechnologies, la téléphonie mobile également. Je vais certainement faire un dossier sur la téléphonie mobile pour inciter les gens à réfléchir sur non seulement les aspects sanitaires, mais je dirais surtout aussi toute la problématique des ressources mobilisées pour mettre en place ces appareils, en particulier tout ce qui va être métaux rares qu'on va retrouver à la fois dans les batteries et autres. Avec une obsolescence et un renouvellement tellement rapide de ces objets que, à mon avis, on ne se pose pas assez la question de ces implications.
De voir passer les gueux, regarder les vieux coqs, genoux édifiantes.
Un lancement de revue, c'est quelque chose qui est vraiment pas simple. Donc l'enjeu du lancement d'une telle revue, c'est d'abord d'arriver à se faire connaître, d'abord de trouver les bons relais, de trouver les relais médiatiques qui vont accepter de faire état de l'existence de cette revue pour que ça interpelle les gens. Et après, une fois qu'il y aura pu y avoir cette communication suffisante autour de l'existence de cette revue, eh bien, les lecteurs pourront juger de sa pertinence. Et mon souhait le plus ardent, c'est que ça leur plaise. Mais ce qui est sûr, c'est que la revue ne pourra vivre que si ça plaît aux lecteurs. Et elle ne vivra pas si les lecteurs ne sont pas satisfaits de ce qu'ils trouvent à l'intérieur. Dans cette revue, il n'y a pas de publicité. Donc c'est seulement le financement des lecteurs qui pourra faire vivre la revue.
Et j'ai fait mon devoir, elle a fait son devoir. C'est-à-dire que en cœur, elle n'eut de souhait impossible, elle n'eut aucun rêve de lune.
Pierre Raffenot est l'auteur et l'éditeur de la nouvelle revue L'Oiseau de Passage, dont le premier numéro vient de paraître en décembre 2011. Si vous désirez voir de plus près de quoi il s'agit, ou bien encore vous abonner, rendez-vous sur le site internet www.loiseaudepassage.fr. L'Oiseau de Passage, tout attaché. Pour cette deuxième rencontre, voici un homme que vous connaissez peut-être déjà, puisqu'il s'agit d'un écrivain. Il a écrit sur le bonheur, la liberté et la citoyenneté intérieure. Allez, je vous aide, il s'agit de Thomas d'Assembourg. Il est l'auteur du célèbre livre paru en 2000 ans, « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Depuis, il a écrit d'autres livres et anime de nombreuses conférences de par le monde. Rencontre d'un homme qui a retourné sa veste, du bon côté si je puis dire.
En peu de mots, j'ai eu la chance de grandir dans une famille aimante, à la campagne, avec beaucoup d'amour autour de moi, mais quand même, comme dans toutes les familles, des conflits. Et je mesurais que les êtres sont capables de plein d'attention, de générosité, mais très incapables d'éviter le conflit, la tension, et d'envenimer parfois les choses avec leurs jurements, leurs reproches, leurs a priori. Et donc j'ai eu envie de contribuer à la résolution des conflits. Et le seul métier que je voyais dans cet esprit-là, c'était d'être avocat. Et donc j'étais avocat une partie de ma vie, mais très vite en étant avocat je me suis rendu compte que lorsque le conflit existe, il est le fruit d'un malentendu, et le malentendu est lui-même le fruit d'un mal exprimé et d'un mal écouté. Quelqu'un n'a pas exprimé clairement ce qu'il aimerait, ce qu'il voudrait, ce qui rendrait la vie plus agréable. Il a exprimé des critiques, des reproches, des insultes ou des injures. Et l'autre en face n'a donc pas entendu une attente, un souhait, une façon d'aménager la vie pour qu'elle soit plus agréable. Il a forcément entendu un jugement, un reproche, une critique, une insulte ou une injure. Et donc il s'est soit enfui pour se protéger, soit il a répondu sur le même ton. Et donc je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps à essayer de résoudre des enjeux par des solutions juridiques, des enjeux émotionnels ou relationnels. Voilà ce qui m'a mis en route pour apprendre à comprendre la relation et à partager des clés de compréhension de la relation et de la communication. J'étais avocat pendant 5-6 ans au barreau de Bruxelles, je suis belge, et puis j'étais encore juriste pendant 10 ans. J'ai travaillé comme consultant, comme conseiller extérieur, mais dans une grosse multinationale américaine. Ce qui fait que j'étais amené à rencontrer toutes sortes de conflits. Il se fait que parallèlement, comme mon métier de juriste me nourrissait matériellement, assez confortablement, je peux le reconnaître, mais pas intérieurement, j'étais pas satisfait de ça. Pour donner du sens à ma vie, je me suis occupé de jeunes de la rue pendant 10 ans. Parallèlement, c'était du bénévolat. Mais très vite, en m'occupant de ces jeunes de la rue, je me suis rendu compte que j'avais envie de m'occuper de l'humain et non pas d'enjeux matériels, que c'était passionnant d'être dans la tentative de se comprendre mutuellement. Et ça m'a donné les premières clés de ce que j'enseigne aujourd'hui. Précisément, en vivant avec ces jeunes dans des activités, des projets, des randonnées, des voyages, on a monté pas mal de randonnées dans le désert notamment, et d'activités à l'extérieur, dans la nature, je me rendais compte que la violence extériorisée dans les agressions, le langage, les déprédations, le vandalisme, ou la violence intériorisée dans les scarifications, les automutilations, la prostitution, les addictions diverses, je me rendais compte que la violence extériorisée ou intériorisée est un manque tragique de discernement, de conscience et de vocabulaire, de mots, pour nommer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand j'ai pas les mots pour dire ma solitude, mon désarroi, ma rage, mon impuissance, quand j'ai pas les mots pour dire mes besoins d'appartenance, de reconnaissance, d'être écouté, d'être compris, puis de trouver du sens dans ma vie et bien sûr d'être aimé, quand je n'ai pas ce discernement et cette capacité à mettre en mots ce qui se passe en moi, la vie bouillonne et il faut que ça sorte, et ça sort dans l'agression à l'extérieur ou dans l'agression retournée sur moi. Et c'est là que j'ai compris que j'avais besoin moi-même d'apprendre à mieux me comprendre.
Thank you.
Je n'avais aucune ressource autre que mon travail. Donc j'ai fait une transition douce entre le moment où j'ai décidé de changer de vie et le moment où j'ai pu vivre de ma nouvelle vie de thérapeute, de formateur, puis de conférencier et puis finalement d'auteur. Eh bien, il m'a fallu à peu près 8 ans de transition pour me former, pour apprendre à me connaître d'abord et petit à petit développer une nouvelle pratique. Bon, j'ai eu la chance, comme j'étais indépendant, de pouvoir renégocier mon contrat en un mi-temps, du temps libre pour former ma nouvelle pratique. Et c'est ce qui m'a permis petit à petit de devenir autonome et de vivre de mon métier de thérapeute et de formateur. Et d'aider les gens autrement. Bien sûr, le fil rouge de mon chemin de vie, c'est le goût de contribuer à résoudre les conflits. Et au-delà de la résolution de conflits, c'est d'amener les êtres humains à mieux connaître leur être profond derrière leur personnage, à connaître la vraie personne qu'ils sont derrière le personnage construit que nous avons tous par nos éducations, par nos habitudes, par nos fonctionnements. Parce que j'ai acquis la conviction, en accompagnant les personnes, que c'est en étant vraiment nous-mêmes à l'intime de nous que nous sommes généreux de nous. Au fond, nous sommes pris au piège, et nous le sentons bien. Nous sentons bien que nous vivons petits, nous vivons coincés, nous vivons dans ce que j'appelle des enfermements qui peuvent se révéler infernaux dans des habitudes de fonctionnement, des automatismes de pensée, des préjugés, des systèmes dogmatiques, de référence, et que ça ne correspond pas à l'élan de vie extrêmement généreux qui tend vers l'infini qui est en nous. Nous avons du mal à nous accommoder de cette finitude-là. Et donc, l'idée, c'est de retrouver cette nature infinie, cette dimension de notre être qui est vraiment notre véritable nature, notre essence, en comprenant les pièges et les enfermements. Donc remettre en question sa façon de vivre est une clé pour sortir du piège. Et donc mon travail consiste à partager des prises de conscience permettant de localiser le piège et de comprendre comment il s'est enclenché pour pouvoir le désenclencher.
Thomas Dassimbourg, l'un des écrivains conférenciers qui se trouvait la semaine dernière dans la Drôme aux rencontres de l'écologie. Je vous invite à le lire ou bien encore à le rencontrer, cela vaut le détour. Pause à Ios avec la grecque Elisa Velia et voici venu le temps de la parenthèse littéraire. Redécouvrons ou découvrons Rudyard Kipling et la littérature indienne.
Alors, je voulais commencer un peu différentes chroniques autour du thème de la littérature indienne. La littérature indienne de l'Inde, et non pas des Indiens d'Amérique, et parler de différents romans qui m'ont enthousiasmé, certains que j'ai lus il y a très longtemps, d'autres que j'ai lus assez récemment. Donc je ne suis pas du tout une spécialiste de la littérature indienne, ni des écrivains qui ont écrit autour de l'Inde, mais l'idée c'est de faire partager un peu ma passion pour certains ouvrages. Donc je voulais commencer par parler de Rudyard Kipling. Alors bien sûr, vous allez dire, mais Rudyard Kipling n'est pas un Indien, ce qui est vrai, puisque c'est un écrivain anglais qui est né quand même à Bombay et qui se considérait quand même comme un anglo-indien ou un indo-anglais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, tout en se référant vraiment à l'Empire britannique, puisqu'il est né en 1865, je regarde un peu mes notes, 1865, et donc c'est quelqu'un qui a vécu sous l'Empire britannique et qui n'a pas véritablement remis en cause au aussi bien dans sa vie que dans son œuvre, le fait que l'Angleterre ait colonisé l'Inde. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui avait un amour pour ce pays, pour ce continent, puisque bon, l'Inde, c'est vraiment, c'est pas un pays, c'est un continent, qui fait qu'en fait, toute son œuvre tourne autour de cette espèce de fascination qu'il avait pour ce continent et puis pour les gens qui l'habitaient. Alors Kipling, il est donc né à Bombay, il a suivi un peu la formation de tout bon anglais d'une colonie britannique. Bon, ses parents étaient, son père était professeur, c'était pas des militaires, parce qu'on a souvent dit que Kipling faisait un peu l'apologie de l'armée britannique, ce qui peut être vrai dans un certain sens. Puisqu'il y a beaucoup de ces personnages qui sont souvent des soldats britanniques, mais toujours un petit peu à la marge. Mais donc il est né à Bombay, il a ensuite été faire ses études en Angleterre, ce qui pour lui a été quelque chose de terrible. Quand il raconte dans ses souvenirs, on voit vraiment que l'Inde, son climat, les personnes lui manquent. Quoi. Cette civilisation indienne lui fait terriblement défaut et il n'aura de cesse que de retourner en Inde. Bon, c'est quelqu'un qui aura vécu un peu dans différents pays, mais toute son œuvre quasiment traite du continent indien. Alors ses œuvres, son œuvre la plus connue, c'est bien évidemment le Livre de la Jungle. Bon, qui a été adapté, réadapté, réadapté. Bon, pour moi, c'est pas certainement sa meilleure œuvre, mais c'est celle qui l'a rendu célèbre internationalement. C'est quelqu'un qui a eu, il a eu le prix Nobel aussi, Rudyard Kipling. Je me souviens plus en quelle année, c'est pas très important. Mais c'est quelqu'un qui a eu effectivement qui a été très très connu et très apprécié à son époque, qui a remporté des succès phénoménaux à la fois avec le Livre de la Jungle et puis avec notamment ses nouvelles. Il a écrit énormément de recueils de nouvelles, dont une qui est très connu, qui a été adapté au cinéma par John Huston, c'est L'homme qui voulut être roi, je vous en parlerai un petit peu plus tard, et puis donc aussi par ses poésies, il a créé certaines poésies, notamment une qui s'appelle If, Si, et qui a été chantée par Bernard Lavilliers, donc peut-être on pourrait après illustrer avec cette chanson-là, où il parle un peu de ce qu'il ferait, ce que son fils deviendrait un homme s'il était capable de laisser les richesses, de ne pas s'attarder aux apparences. Enfin, il y a tout un texte, qui est d'ailleurs un texte très beau et qui a été chanté par Lavilliers. Voilà, donc il a écrit beaucoup des romans, des nouvelles et puis des poésies. Et un de ses romans qui, pour moi, est son roman le plus intéressant, le plus important, qui est vraiment un livre superbe, s'appelle Kim, dont on parlera la prochaine fois. Donc là, je voudrais m'attarder, si vous voulez, sur cette nouvelle qui s'appelle L'homme qui voulut être roi, donc adaptée au cinéma par John Huston, avec deux acteurs, Sean Connery et puis l'autre qui s'appelle, ça y est, son nom m'échappe. Donc il y a Sean Connery, ça c'est sûr, et puis un autre acteur anglais, le nom me reviendra. En fait, l'histoire donc de l'homme qui voulut être roi, c'est l'histoire de deux soldats anglais qui sont en fait des soldats déclassés, c'est-à-dire qu'eux, ils ont quitté l'armée, qu'ils ont été rejetés vraiment par les militaires parce qu'ils se sont comportés de façon un peu limite, c'est-à-dire c'est des aventuriers, c'est des gens qui ont fait du trafic d'armes, qui ont mouillé dans différentes affaires, qui font un peu d'espionnage et qui sont vraiment, qui ont quitté l'armée et dont le but est de s'enrichir, de devenir riche. Et puis un jour, ils décident de partir, d'aller découvrir un pays qu'aucun Européen n'a jamais vu, qui s'appelle le Kafiristan. En fait, le Kafiristan, ça veut dire le pays des étrangers. C'est un pays déjà très, très difficile à atteindre. Bon, on imagine, c'est un pays imaginaire, hein, qui n'existe pas. On imagine que ça doit être vers le Népal, dans les montagnes. Et donc, ces deux aventuriers partent comme ça. Et après mille et une péripéties, ils arrivent au Kafiristan et ils tombe sur une espèce de peuplade, on pourrait dire des tribus qui sont en guerre perpétuelle, et donc ils sont confrontés à une civilisation en fait qu'ils ne connaissent pas, mais ils prennent l'ascendant sur ces peuples-là parce que leur formation de militaire leur permet finalement de prendre le pouvoir sur les différentes tribus, et ils finissent par arriver au cœur du Kafiristan dans une tribu où ils sont reconnus parce que un des deux porte sur son une médaille avec un signe un peu kabbalistique qui est reconnu par le peuple de là-bas comme le signe d'une divinité, et donc il est considéré comme un dieu. Et ce qui est très intéressant, et c'est là l'intérêt de ce récit, c'est que ils se laissent prendre au jeu. C'est-à-dire qu'au départ, ils sont vraiment venus pour piller, c'est-à-dire qu'on leur met à disposition de toute façon toutes les richesses du pays. Mais finalement, le personnage celui des soldats, donc qui est pris comme pour un roi, se prend au jeu et finit par ne plus vouloir partir. Il finit par vouloir épouser une princesse. Et puis voilà quoi, il se prend vraiment au jeu et il édicte des lois. Il s'imagine qu'il va faire le bonheur du peuple. Alors que son compagnon, lui, reste vraiment tourné vers l'idée de prendre l'argent et de prendre la fortune et de s'en aller. Bien évidemment, l'histoire se terminera très très mal, on l'imagine bien, mais ce qui est très intéressant, c'est finalement cette bascule où là est mis en jeu cette espèce de fascination finalement de l'homme occidental pour ces pays inconnus. Et puis, il y a aussi l'idée que tout d'un coup, on part de rien et on peut arriver à devenir, roi. Alors bien évidemment, c'est complètement vain, cette recherche, elle est vaine, mais il y a tout ce jeu là entre ces deux personnages. Et à la fois, on part de personnages très très réels et très quotidien, matériellement, pas des gens pas très recommandables, et puis tout d'un coup qui sont happés par quelque chose qui est plus fort qu'eux. Et ça, c'est vrai que c'est en jeu dans tous les romans de Rudyard Kipling. Donc moi, je vous conseille de lire cette nouvelle qui fait partie d'un recueil de nouvelles. Il y en a peu qui sont disponibles en France, donc on prend les nouvelles de Rudyard Kipling, il y a toujours cette nouvelle, donc L'homme qui voulut être roi, et puis aussi de voir le film de John Huston, donc avec Sean Connery et l'acteur anglais dont j'ai oublié le nom. Voilà, donc ça, c'est pour illustrer un petit peu le travail de Rudyard Kipling. Voilà, donc j'ai retrouvé le nom du deuxième acteur qui joue dans L'homme qui voulut être roi de John Huston, Michael Caine.
Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir. Ou perdre en un seul coup le gain de son parti. Sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour. Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre. Et te sentant haï, sans haïr à ton tour. Pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots. Et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'homme. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître. Penser sans être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage. Si tu peux être brave et jamais imprudent. Si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front. Si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Tu seras un homme, mon fils.
À la fin de cette parenthèse littéraire, vous avez pu entendre If, un texte de Rudyard Kipling interprété et mis en musique par Bernard Lavillier. Cette émission touche à sa fin. Merci à Elsa Gourmand pour sa revue de presse dudulesque, à la chemise à rayures pleine d'oiseaux. Merci à Sylvie Boulard et à sa parenthèse littéraire indienne. Côté musique, vous avez pu entendre le groupe Hérolté Trio Zéphyr, les oiseaux de passage de Brassens, un CD de la semaine de la grecque Elisa Vela. Et merci à Chloé pour la technique. Et tout de suite, un dernier petit morceau pour la route. Les rois de la Suède, Nutelle-moi une dernière fois.
Jeudi 23 septembre, la nouvelle est tombée. C'est l'extinction des arbres à pâte à tartiner. Le dernier ouvrier a pleuré devant la dernière goutte marron récoltée au creux de ses doigts. Cette fois-ci, c'est la fin. La fin du Nutella. Les Italiens avaient fait un jour cette belle découverte. Les Italiens avec leurs jolies chemises noisettes. Pour une fois qu'ils avaient quelque chose de bien. Du bonheur à tartiner entre les dents chaque matin. Mais encore une fois, la folie des hommes a gagné. À force de tout exploiter, la sève n'a plus coulé. Les Mayas depuis longtemps l'avaient prédit. Nutella comme les deux chevaux, maintenant c'est fini. Nutelle-moi une dernière fois. Toutes tes noisettes, recouvre-moi. Fais-toi glisser sur ma languette. J'en laisserai pas une miette. Ce soir je pleure dans ta stéréo. C'est pire que la fin des Haribo. Les Japonais pour leur sushi avaient déjà tué les dauphins. Ils nous ont pris ça aussi, mérite d'être punis à la fin. Au royaume des dieux, les gens sont bien énervés. C'est la seule chose qu'ils ne savaient pas recréer. Apollon n'a plus rien à se mettre sur son pain poilane. Aphrodite n'a plus de goûter. Désormais sa rose se fane.